France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et pour commencer, une histoire qui se termine peut-être.
Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit.
Parole d'énarque et d'inspecteur des finances, comme il l'avait promis après la crise des Gilets jaunes, le président de la République a annoncé jeudi qu'il allait donc supprimer l'ENA, créé en 1945. L'ENA qui sera remplacé par un institut du service public. Gilles, est-ce que c'est une nouvelle si importante que ça ?
Non. C'est un long discours sur, non pas la suppression de l'ENA, mais sur la réforme de l'État et sur le rôle de la fonction publique. Et c'en est sans doute la partie la plus symbolique et peut-être la plus anecdotique. Ce qui est frappant, c'est que...
Anecdotique.
Oui, vous l'avez dit, c'est que l'annonce de la suppression de l'ENA est un peu étirée comme un vieux chewing-gum. Ça fait la troisième fois que cette annonce est faite. En revanche, l'annonce des modalités de ce qui remplace l'ENA, elles sont distillées au compte-gouttes. Les problèmes, ils sont connus, on les a déjà évoqués à de nombreuses reprises. Ici, l'ENA est une école qui a un problème dans la diversité de son accès,
oui,
qui a un problème dans l'intérêt du contenu de la formation et qui a un problème d'injustice dans la sortie en créant une sorte, je reprends une formule qui a été utilisée, d'aristocratie d'État pour ceux qui sortent dans les grands corps et de bourgeoisie de province pour les autres.
Donc, les meilleurs élèves, il faut le rappeler, vont à l'inspection des finances, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, par exemple, et ce sont eux qu'on retrouve ensuite à la présidence de la République, à Matignon souvent, dans les ministères et également à la tête de nombreuses entreprises du CAC 40.
Donc les orientations qu'a évoquées le président de la République, je crois pour beaucoup sont défendables. L'idée symbolique du changement de nom, on passe d'une modalité qui est l'administration, l'École nationale d'administration, à une finalité qui est le service public, l'Institut du service public, et un certain nombre d'orientations, le fait d'avoir un tronc commun à l'ENA et à d'autres écoles du service public, d'avoir un corps unique à la sortie pour tous les fonctionnaires, de commencer ce qui semble quand même être une évidence par des fonctions opérationnelles pour ceux qui sortent de l'école. Tout ça me semble défendable. En revanche, il demeure, et c'est ça qui est étonnant alors que le temps passe, oui, un certain nombre d'imprécisions qui sont incroyables. On dit qu'il y avait un problème de diversité. On ne sait pas davantage comment il y aura davantage de diversité.
Dans le futur institut,
on a parlé d'un dispositif talent. Bon, il n'y a pas de mobilité dans la fonction publique, on ne sait pas comment il y en aura davantage. On dit la scolarité a un problème de contenu, on ne sait pas en quoi elle sera plus intéressante. Et enfin, et surtout, l'accès au grand corps, on dit c'est plus directement à la sortie de l'ENA, mais il faut savoir comment ça se fait. D'une certaine manière, ce qui a été annoncé, c'est, je disais au début, le plus anecdotique, c'est surtout le plus facile, le plus difficile, c'est le reste.
Natacha Polony.
Oui, je rejoins tout ce que vient de dire Gilles. J'y ajoute deux, trois petites choses. D'abord, pour avoir vu depuis des années, en tant que journaliste spécialiste des questions d'éducation, les modifications de la formation des maîtres, je sais à quel point changer les sigles ne change rigoureusement rien. Et surtout, un point essentiel, je l'ai vu quand on est passé des IUFM, alors avec la période stupide où Nicolas Sarkozy avait supprimé carrément la formation, mais ensuite on avait recréé les ESPE, voilà.
Instituts universitaires de formation des maîtres.
Les maîtres qui sont devenus les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, et ben, moralité, on a repris les mêmes formateurs parce que c'était ceux qui proposaient les formations clés en main, c'était rapide, c'était facile. Donc si le résultat est le même là, en effet, ça n'aura rien changé parce que
Gilles l'a fort bien souligné.
Je termine mon raisonnement. Gilles l'a fort bien souligné. Il y a un problème sur la nature de l'enseignement. Encore une fois, les symboles sont très sympathiques. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait concrètement, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les gens qui administrent la France le fassent en ayant une certaine connaissance des réalités de ce que vivent les différents les citoyens dans leurs différences, dans leur diversité, tout le corps social. Et donc la question de savoir comment on recrute des gens qui ont un parcours différent, c'est-à-dire comment on multiplie les portes d'entrée dans cet institut, sera fondamentale. Deuxièmement, c'est la question de la diversité du public dès le départ, et ça c'est un problème, j'allais dire, qui se gère bien en amont, c'est-à-dire la question de l'arrivée jusqu'au concours et comment on fait pour réellement permettre à chaque enfant, où qu'il soit, de quelque milieu qu'il soit, d'avoir une chance un jour d'arriver dans ce genre d'institut. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais qui relève d'une autre problématique. Donc le symbole est important, et je pense que ce qui est fait et va dans le bon sens, c'est une bonne idée. Je pense en effet que le fait de sortir de cette caste des grands corps est essentiel, mais ça ne marchera que si on donne accès à la haute fonction publique à des gens qui ne sont pas issus de ce cursus, qui est tout de même un cursus tracé directement et de la part de gens qui n'auront vu rien d'autre que ce cursus et la haute administration. Donc je pense que c'est un petit élément minuscule dans un océan de réformes à faire, et que les aristocraties se reconstituent toujours extrêmement facilement. Il n'y a donc rien de plus difficile que ce processus qui consiste en permanence à, j'allais dire, à abolir les privilèges et à renouveler à renouveler les différentes élites. Et je pense que ça nécessite une volonté de la part de l'ensemble de l'État. Pour l'instant, j'en vois des bribes. Ça
c'est pas la nuit du 4 août.
Fond.
Un mot encore, Gilles.
Oui, juste un mot. Natacha Polony utilisait l'image de, c'est en gros une petite goutte dans un océan. On a beaucoup parlé de la petite goutte, qui n'est pas une si petite goutte que ça. Mais un mot sur l'océan, c'est-à-dire sur le reste du discours, qui est un discours, je crois, important. Juste un mot. D'abord, la première chose qui me frappe, c'est il y a un angle mort dans cette réflexion sur l'État, qui est celui de la paupérisation de l'État, de ses moyens et de ses agents. Et le deuxième, et ça c'est intéressant par rapport à la campagne présidentielle qui vient, c'est on a une illustration de ce que seront les difficultés du président de la République dans cette campagne à venir. Ce discours arrive un peu trop tard pour engager de grands chantiers et un peu trop tôt par rapport à la campagne. Et on voit dans ce discours tout l'écart entre ce qu'étaient les engagements de campagne de 2017 et où on en est aujourd'hui en 2021, entre la réalité et les discours. Et ce qui est rare chez Emmanuel Macron, c'est un discours dans lequel il y a en réalité beaucoup d'autocritique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un bilan très élogieux de la politique que lui-même a conduit sur ce sujet. Et je crois que de fait, c'est peut-être un des grands échecs du quinquennat, mais qu'au-delà de ce domaine, on voit la difficulté pour un président sortant d'engager une nouvelle action, à part dire il faut faire plus vite et aller plus fort.
Natacha Polony, avant de passer au prochain sujet.
Un dernier point d'ailleurs qui, en fait, me semble fondamental, la notion de service public. Gilles soulignait le changement de nom. Je pense que le sens du service public, ça s'apprend. Je reprends la corrélation que je faisais avec la formation des enseignants. On y avait ajouté à un moment l'idée d'enseigner en fonctionnaire. C'était une formation. Je veux dire, le sens du service public n'est pas évident, surtout dans une haute fonction publique qui, depuis 40 ans, a appris que le progrès, la modernité, c'était la gouvernance managériale. C'est-à-dire qu'il fallait gérer l'État comme on gère une boîte privée.
Ouais.
Or ça, je pense qu'il va falloir des années pour revenir sur cette idéologie, d'autant plus que, et c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron d'avoir évolué là-dessus, mais sa campagne de 2017 allait totalement dans ce sens-là. Il était le pur produit de cette idéologie managériale. Aujourd'hui, peut-être a-t-il pris conscience de l'intérêt d'un État qui, justement, ne fonctionne pas comme une entreprise privée. Gilles disait à juste titre que la question est celle des moyens de l'État, mais l'État ne peut avoir des moyens que si on a conscience de la nécessité d'avoir un État, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de rééquilibrer les inégalités, d'aménager le territoire, de penser à long terme, de planifier. C'est tout cela le rôle de l'État. Est-ce qu'on apprendra ça dans cet institut ? Je le souhaite.
Histoire à suivre. Vous voyez que c'était pas si anecdotique puisque vous avez eu un échange passionnant sur le sujet. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le protocole appliqué lors de cette visite répondait aux demandes de la partie européenne. La disposition des sièges a été faite conformément aux suggestions de la partie européenne. Point. Nous n'aurions pas fait cette déclaration si la Turquie n'avait pas été à ce point injustement accusée. Mais nous constatons que les choses sont présentées, y compris au plus haut niveau, comme si la Turquie était responsable.
Celui qu'on vient d'entendre est le chef de la diplomatie turque jeudi, pour revenir évidemment sur cette scène qu'on a tous vue. L'image a fait le tour du monde avec ce hashtag Sofagate. Ursula von der Leyen, Charles Michel à Ankara pour rencontrer le président turc Erdogan, et une histoire de protocole qui a provoqué l'indignation quand la présidente de la Commission européenne s'est retrouvée sans siège pendant que le président du Conseil européen, Charles Michel, lui, était invité à s'asseoir aux côtés de Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a fustigé des accusations injustes après un affront protocolaire. Natacha, comment est-ce que vous avez compris cette séquence où on se rejette la responsabilité d'un côté et de l'autre et où on en fait une affaire de protocole quand l'image est si forte qu'elle dit malgré tout l'humiliation ?
Je pense que l'image est en effet profondément symbolique, mais symbolique d'énormément de choses. Premièrement, symbolique de la façon dont la Turquie a décidé d'utiliser toutes les failles qui sont les nôtres. Et première faille, tout de même, l'absence totale d'élégance et, j'allais dire, de minimum de politesse de la part de Charles Michel, qui visiblement n'a pas du tout vu où était le problème. Donc, premier point, et ça a été un des points les plus mis en avant, une image de machisme qu'en effet personne ne peut nier. C'est-à-dire que on a depuis retrouvé toutes les images dans lesquelles le président du Conseil européen et le président de la Commission étaient à parts égales autour du président turc.
Oui.
Donc c'est déjà arrivé, nous sommes bien d'accord que il se trouve
comme par hasard. Donc l'excuse du protocole ne tient pas.
Bien sûr que non, que l'excuse du protocole ne tient pas. Sauf à démontrer qu'il y aurait eu de la part des diplomates européens la volonté expresse de changer le protocole. Ce qui me semble assez bizarre. Donc, premier point, il y a en effet une volonté de marquer le fait que Ursula von der Leyen a le mauvais goût d'être une femme. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond que cela. Parce que ce qui facilite cette scène, ce n'est pas le machisme ou la volonté d'humilier les femmes de Tayyip Recep Erdogan. C'est le problème, en effet, du bicamérisme, du caractère bicéphale de l'Europe. Oui, en termes de protocole, à l'extérieur, le président du Conseil européen est celui qui représente une Europe qui n'est pas encore une Europe fédérale.
Il représente les chefs d'État, les 27 chefs d'État.
Voilà, il représente les 27 chefs d'État. Pour autant, il existe une commission. Et en fait, cela révèle que nous n'avons pas résolu ce problème-là. Qui représente l'Europe et qu'est-ce que l'Europe exactement ? Est-ce une fédération, une confédération d'États-nations qui représente les citoyens européens ? Voilà la question qu'il faut se poser et que cette petite scène met en lumière de façon assez crue.
Gilles Finkelstein.
Claude Martin, qui était un de nos grands diplomates, a écrit des mémoires dont le titre était « La diplomatie n'est pas un dîner de gala ». On voit que le protocole non plus, et que le protocole est même un sport de combat. On peut faire une lecture technique ou juridique de cet incident, et en réalité, si c'est ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a une hiérarchie protocolaire. Fédération d'États-nations, disait Natacha, pour reprendre la formule de Jacques Delors, c'est État-nation d'abord et fédération ensuite, donc c'est Charles Michel devant Ursula von der Leyen, et cette hiérarchie a été respectée. De ce point de vue-là, ça serait un incident sans objet, d'autant plus que, il faut quand même le dire, Ankara, dans ce moment-là, n'avait aucun intérêt à créer un incident, puisque c'est plutôt Ankara qui est demandeur de rétablissement de relations normalisées avec l'Union européenne. En revanche, il y a une lecture symbolique et politique, et je rejoins ce que disait Natacha, et là, il y a beaucoup à dire sur Ankara, parce que la vigilance de ce point de vue-là, est extrêmement légitime. Ce rendez-vous s'inscrit dans un contexte. C'est la sortie, il y a peu, d'Istanbul, de la Convention d'Istanbul, enfin de la Turquie, de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Et dans les événements, dans les éléments préparatoires à ce rendez-vous, on a vu aussi, les équipes avaient vu qu'il y avait un sujet sur la place d'Ursula von der Leyen. Bon. Donc ça, c'est du côté d'Ankara, mais ça dit aussi des choses sur les institutions européennes elles-mêmes, avec des rivalités qui sont un peu des rivalités enfantines. Ce sont les équipes de Charles Michel qui, à cause du Covid, ont seules préparé ce rendez-vous. Donc il y a sans doute des rivalités internes. Et la victime de tout ça, eh bien, c'est Charles Michel lui-même, soit à cause de ses équipes, soit parce que lui, surtout, n'a pas eu le sens politique au moment de l'événement pour prendre les décisions qui s'imposaient et qui étaient de soit qu'on ajoute un siège pour Ursula von der Leyen, soit davantage encore même de laisser le sien.
Oui, bien sûr.
Eh bien voilà, il a manqué de sens politique. C'est ça aussi la vie.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Nous avions fait un prêt de l'État de 3 milliards d'euros à Air France. C'était un prêt sur 4 ans. Ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État, en fonds propres de l'État dans l'entreprise. Deuxième soutien, nous allons monter. Ça veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30%. Ça fera de l'État le premier actionnaire d'Air France.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il était l'invité de France Inter mardi matin et il annonçait donc cette nouvelle aide à Air France en très grande difficulté. Une entreprise qui a ses avions évidemment qui sont très largement cloués au sol et une aide qui ne sera pas la dernière, précisé Bruno Le Maire cette semaine. Comment est-ce que vous avez entendu, reçu cette nouvelle, Gilles Finkelstein, quand on aide une entreprise, on l'aide de nouveau et qu'on annonce qu'on va devoir encore venir l'aider?
Écoutez, il y a d'abord une forme de soulagement parce que Air France est en difficulté et je crois qu'il est extrêmement légitime que l'État intervienne pour l'aider, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude. De l'inquiétude pour l'Union européenne, ça a été peu évoqué. L'Union européenne a fait plusieurs pas en avant dans cette crise en révisant un certain nombre de ses dogmes, y compris sur les aides d'État. Il y a là, en l'espèce, aussi un pas en arrière parce que, une nouvelle fois, il y a nécessairement, pour la Commission européenne, des contreparties à ces aides. Et donc, dans le même temps, on renforce et on affaiblit Air France. En l'occurrence, c'est en obligeant Air France à céder un certain nombre de slots dans les aéroports parisiens.
Oui.
Inquiétude ensuite pour Air France. Vous l'avez dit, ce n'est qu'une étape. Avec la crise du Covid, il y a un problème pour l'ensemble du secteur aérien. Ce problème est plus aigu pour l'aérien en Europe. Il est plus aigu dans l'aérien en Europe pour Air France KLM et dans Air France KLM, il est plus aigu encore pour Air France.
Pourquoi ?
Air France est le maillon faible aujourd'hui de ce groupe parce qu'il est entré très affaibli déjà dans cette crise, après avoir été, il n'y a pas si longtemps, quand Jean-Cyril Spinetta en était le président, la première compagnie aérienne mondiale en termes de passagers. Et il est aujourd'hui très affaibli malgré cette aide, parce que les problèmes de fonds propres n'ont été qu'à moitié résolus et que les problèmes de liquidité, c'est-à-dire de revenus, sont devant nous. Je vous donne juste ce chiffre qui est édifiant. Il y a eu 1 milliard d'aides supplémentaires, de liquidités supplémentaires pour Air France. Chaque mois, Air France utilise 300 à 400 millions d'euros de cash. Donc le problème est devant, et le problème est devant dans des conditions qui sont pires parce que maintenant c'est vers les marchés financiers que Air France va devoir se refinancer. Enfin, je termine par une dernière inquiétude qui est pour la transition climatique. L'usage de l'avion demain sera, on le sait tous, plus raisonné. C'est vrai sur les courtes distances, c'est vrai sur les voyages d'affaires, sur les longues distances. Il devra être aussi plus économe en CO2. Il y a déjà beaucoup de pistes qui sont devant nous, beaucoup de progrès. On sait que les nouveaux avions consomment beaucoup moins de kérosène. On réfléchit, et même il y a des problèmes de financement, mais ça existe, à un carburant vert. On utilise beaucoup mieux les datas pour économiser la consommation. Mais tout cela demande des investissements. Or, le problème pour Air France, c'est que pour assurer cette transition climatique, eh ben, il risque en plus de manquer de fonds.
Natacha, l'aérien n'est plus un rêve d'enfant.
Alors, cette phrase a beaucoup fait parler et elle me semble très intéressante. Pourquoi ? D'abord parce que quand on se met à décider ce que doit être l'imaginaire des enfants, ça devient extrêmement angoissant. Et pour autant, pour compenser cela et dédouaner un petit peu la mère de Poitiers, ça ne dérange personne quand c'est la publicité qui dicte leur imaginaire à nos enfants. Ça me semble éminemment problématique. Mais le problème qui se pose à Air France, alors Gilles a très bien résumé la question notamment de la philosophie européenne, qui est de l'évolution de l'Europe, qui a encore beaucoup de pas à faire pour comprendre que la défense des consommateurs ne doit pas empêcher de consolider les entreprises européennes. Et dans un monde où on a des monopoles qui se créent partout ailleurs, il serait absolument stupide d'empêcher de consolider les entreprises européennes et de créer des géants européens. Or, les compensations réclamées à Air France ne vont faire qu'affaiblir une entreprise que l'on veut consolider et aider, c'est absurde. Mais il me semble que le problème va venir en effet de la capacité d'Air France, comme de toutes les autres entreprises, mais en particulier d'Air France, d'opérer ce tournant qui va se jouer dans les années qui viennent sur l'aérien, dans la mesure où, Gilles l'a tout à fait bien dit, la question climatique va s'ajouter aux freins mis à la circulation des personnes. Pour le dire simplement, le coronavirus a bousculé totalement cet univers qui était le nôtre, d'un univers libéralisé, de libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. La libre circulation des marchandises a tout de suite repris, celle des capitaux n'a jamais cessé. Reste la libre circulation des hommes, dont on voit qu'elle va rester pour encore longtemps très difficile. Les frontières se sont refermées et ne se rouvriront pas tout de suite. Quant au tourisme, il va certainement connaître des bouleversements. Et dans un sens, ce n'est pas tellement plus mal si on arrive à réfléchir au sens qu'il y avait à ce tourisme de masse low cost tel qu'il avait été développé. Le problème, c'est si on se retrouve avec la perpétuation de compagnies aériennes low cost telles que Ryanair qui contournent les règles, notamment celles de la fiscalité, et qui donc incarnent ce qu'il y a de plus, j'allais dire, de plus ringard et de plus ancien monde dans l'aérien, mais qu'en revanche, on ne permet pas à une entreprise comme Air France de penser un avenir qui serait un avenir davantage tourné vers la préservation du climat et avec une façon de repenser le transport aérien plus écologique, plus, on va dire, plus modéré. Voilà. Je pense que la France, dont le secteur aérien est un des secteurs industriels qui lui reste, a là un tournant à opérer qui va être extrêmement difficile. Visiblement, l'Union européenne n'a pas l'air de vouloir aider à cela, c'est dommage.
Juste un tout dernier mot pour conclure sur cette question climatique, l'aérien et les rêves d'enfants, et sur cette polémique autour de la maire de Poitiers. La décision qui a été prise me semble peu contestable, c'est-à-dire de réduire une subvention pour un aérodrome pour l'affecter à d'autres dépenses de solidarité, d'autant plus que, si j'en crois les chiffres, c'est 4000 euros pour un budget total de 340 000 euros. D'ailleurs, elle a été peu contestée. La justification par la maire a été maladroite. Elle a d'ailleurs reconnu elle-même sa maladresse, très maladroite sur la forme et discutable sur le fond. Mais ce par quoi je voudrais conclure, c'est sur les réactions qui m'ont paru absolument consternantes. Je trouve que ça dénote un curieux sens de l'État lorsque le ministre des Transports tire comme leçon de cette polémique qu'il faut attribuer la Légion d'honneur au président de ces aéroclubs, et que ça dénote d'un curieux sens politique de ceux qui, une nouvelle fois, et on voit ça semaine après semaine, montent en violence dans les qualificatifs. Là, c'était la folie, c'était les ayatollahs. Quand on voit qu'il y a un problème de front républicain, penser que le meilleur moyen pour avoir de meilleurs reports de la gauche et des écologistes dans une hypothèse de second tour, c'est d'insulter du soir au matin et du matin au soir, ça me paraît quand même être un sens politique pour le moins étrange.